Well, you got good. You're good. Vous me chien, vous parlez du beau jour? Bonjour, cocotte.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue dans Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère, le podcast qui célèbre la diversité linguistique et les histoires langagières.
Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère. Lugha yangu ya kwanza sio lugha ya mamangu. Ça veut dire ma première langue, c'est pas celle de ma mère. Et c'est pour ça à chaque fois les gens me disent qu'est-ce que ta langue maternelle? Moi, je dis, mais en fait, je ne sais pas quoi dire parce que j'en ai quatre. Il dit, c'est pas possible d'avoir quatre langues maternelles, voire cinq, parce que pour parler avec les voisins qui ne parlent pas, qui kamba, qui hé, qui digo, ils vont parler en swahili. Et je vais le parler en swahili. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment dans ce contexte que je vois les langues maternelles, c'est les premières langues de contact.
Je m'appelle Alice Magdelaine. Selon moi, toutes les langues sont dignes d'être transmises, enseignées, apprises, parlées, lues, écrites. Mais choisit-on sa langue, celle que l'on transmet à ses enfants, celle qui résonne, celle qui fait sens? Dans ce podcast, je cherche à saisir le lien intime, à dévoiler le capital affectif que les langues recèlent. Chaque épisode est une rencontre. Langues bantoues des populations de la côte est de l'Afrique commerçant avec les Arabes, les Persans, les Indiens puis les Portugais, le swahili devient langue de communication le long du littoral de la Somalie aux Comores. Il ne se diffuse à l'intérieur du continent qu'au début du 19e siècle, dans le sillage des expéditions caravanières du sultanat d'Oman puis de Zanzibar, qui règne alors sur le commerce de l'ivoire et la traite des esclaves. Transcrite par les Allemands en caractère latin, pendant leur colonisation à la fin du XIXe siècle, le swahili devient la langue administrative d'un état colonial, le Tanganyika, passé sous main britannique après la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, le swahili est la langue africaine la plus enseignée dans le monde. Avec environ 200 millions de locuteurs, il est parlé dans une vaste zone, de la République démocratique du Congo aux Comores, en passant par le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya ou la Tanzanie. Langue officielle de l'Union africaine aux côtés de l'arabe, de l'anglais, du portugais, de l'espagnol et du français, le swahili a fait l'objet en Tanzanie d'une politique linguistique active impulsée par son président Julius Nyerere au pouvoir de 1962 à 1985. Imane a grandi entre le Kenya et la Tanzanie. Pour cette Kenzanienne autoproclamée, élevée dans des contextes plurilingues variés et qui a étudié en France l'espagnol, le portugais et l'arabe, les langues, c'est presque sacré. Profondément attachée au swahili, elle nous raconte sa fierté d'une langue panafricaine, reflet d'une identité ouverte sur le monde.
J'ai grandi entre les deux pays. J'étais née au Kenya, à Garissa, c'est au nord-est du pays. Pas loin de Somalie. Et donc, peu après, on a déménagé pour aller à Mombasa. C'est la famille de ma mère qui sont à Mombasa, Malindi, Kilifi, c'est tout le long de la côte. Et donc, j'ai grandi un peu ici. Et en Tanzanie, j'ai aussi fait une partie de ma vie en Iringa, c'est en centre du pays. Et après, sur les côtes, Dar es Salaam, Tanga, Tuara, les villes comme ça. Parce qu'en fait, j'ai bougé beaucoup. Je venais d'une famille où on était libre à choisir, je vais dire ça en guillemets, où on voulait être scolarisé. Par exemple, je faisais mes études à Mombasa. J'étais avec ma mère. Et après, je pars pour les vacances, je sais pas, Mtwara. Mtwara en Tanzanie, oui. Pour voir mes cousines, cousins. Je me sens bien, donc j'appelle juste ma mère. Je lui dis, est-ce que j'ai pu faire l'école cette année ici? Donc, c'est elle et ma tante, mon oncle qui se met d'accord. Et après, j'intègre une école là-bas. Donc, j'ai fait tous ces rebondissements entre le Kenya et le Tanzanie. J'ai fait 8 écoles primaires. Et c'est comme si j'ai fait chaque année une école. Voilà.
Est-ce que tu peux me dire quelle langue t'as entendue dans ton enfance et quelles sont tes langues familiales?
C'est une question compliquée parce que j'ai entendu plusieurs langues dans mon enfance. Et les premières, c'était les Swahili. Et après, il y avait les Kikamba, Chidigo, Hehe et les Giriama. Les langues de ma maman, mes parents, c'était les quatre. Kikamba, Kigiriama, Chidigo et Kihehe. Et après, Swahili, c'est les langues communautaires. Donc, c'est les langues que j'ai entendues avec les voisins, les amis, les personnes qui ne parlaient pas ces quatre langues, forcément. Voilà. Kikamba et Kigiriama, ce sont les langues de ma mère. Et elle les parlait avec sa famille, avec des amis, elle, et parce qu'elle habitait dans une zone où il y avait des gens, les communautés Giriama. Et donc, c'était aussi une langue que j'entendais dans l'école, avec les vendeurs et tout ça, et on parlait même nous à la maison. Et après, Kihehe et Chidigo, c'est les langues qui sont parlées avec mon père. Kihehe vient de Tanzanie. Et Chidigo, il y a une partie des peuples Chidigo qui sont au Kenya et les autres qui sont en Tanzanie. Au Tanga, c'est en fait une communauté, comment on dit, frontalière. Voilà. Et bon, donc lui, il parlait pas forcément ça, c'était un peu colonial, mon père, parce qu'il voulait absolument qu'on parle anglais. Et moi, j'étais dans la résistance parce qu'autour de moi, mes cousins, cousines, ils parlaient Kihehe. Et Chidigo, et donc moi j'ai commencé à apprendre à partir de ça. Et voilà, il était tellement surpris que je les ai appris sans qu'ils se rendent compte comme ça. Et ma mère aussi, elle parle un peu de Chidigo, donc c'était facile aussi. Voilà. Mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Je sais quand il était dans la maison, elle nous parlait en anglais. Mais quand il n'était pas là, quand il était au travail, parce qu'elle, elle était vraiment, elle restait à la maison, elle faisait la couture à la maison avec nous là. Et quand il n'était pas là, c'est là vraiment elle nous adressait les paroles en Kamba, en Kigiriama. Et quand elle nous amenait vers ses amis parlaient en Swahili. Et donc avec elle, c'est là que j'ai eu cette opportunité d'aussi m'imprégner avec ces langues. Parce que même maintenant, dans la maison, mais ça, elle parle deux. Moi, je parle les quatre parce que je suis le seul qui a plus vécu en Tanzanie qu'elle. Et donc, par exemple, les Kihehe et Chidigo, c'est pas vraiment le truc qui sont coupés les liens avec mon père, donc elles parlent pas ça. Mais elles comprennent quand les gens lui parlent. Et donc, à la maison, parfois, par exemple, ma mère peut parler en Kamba et moi, je lui réponds en Girama, ou je parle à ma soeur en Chidigo, elle me répond en Kamba parce qu'elle comprend les Kamba, voilà, comme ça. Tu réponds avec les langues que tu comprends. C'est comme ça dans les familles. Et c'est même pas juste au sein de la famille avec ma mère et mes soeurs, c'est même avec mes cousins et tout ça, parce que aussi, les côtés de ma mère, elle vient d'une grande famille où elle avait des belles-mères qui étaient tanzaniennes. Et comme par hasard, il y a quelques-uns qui parlaient aussi les Kihehe, qui venaient de cette région, Chidigo, parce qu'elle venait de Tanga. Et donc, quand on se retrouve, c'est à peu près la même chose. Chaque personne va parler les langues que tu comprends mieux. Et on communique comme ça, c'est trop marrant.
T'as fait l'école au Kenya et en Tanzanie. Est-ce qu'il y avait des différences à l'école au niveau de la langue?
Oui. Par exemple, au Kenya, on était enseigné en anglais. Parce que ce qui est intéressant entre les Kenya et les Tanzanie, c'est comment ils abordent la langue swahili. Au Kenya, après l'indépendance, ils ont bien pris les côtés, moi je veux dire comme ça, colons, parce qu'ils ont imposé l'anglais dans les systèmes scolaires. Aujourd'hui, quand je parle, en 2026, on est puni quand on parle nos langues locales, les swahili, à l'école. Et puni vraiment par humiliation, frappe et tout ça. Et c'est un peu un paradoxe parce qu'au Kenya, la langue nationale, c'est l'anglais et le swahili. Mais après, quand on parle en swahili, les gens te regardent un peu bizarrement, comme si t'es pas éduqué, t'es pas assez éduqué, t'es pas allé à l'école. Et en Tanzanie, c'est l'opposé. Après l'indépendance, ils ont choisi le swahili comme la langue nationale. Tu vas à l'école, tu apprends tout ton swahili. Et après, quand tu commences à avoir l'âge d'aller au collège-lycée, c'est là que tu commences à apprendre, par exemple, l'anglais, l'espagnol, l'italien, mais c'est pas imposé sur toi. Donc, c'était marrant de grandir en faisant l'école dans les deux pays parce que je voyais vraiment les différences et comment c'était très confortable en Tanzanie. On parlait swahili, on parlait nos langues locales. Personne ne disait rien, en fait. On était toutes libres. Tu arrives au Kenya, en fait. Moi, j'étais humiliée tout le temps. J'étais les personnes qui étaient punies tous les vendredis parce que j'oubliais. J'ai commencé à parler chidigo dans les cours et là, ça n'allait pas.
Donc, en fait, tu as vraiment navigué entre ces deux pays. Tu as grandi avec le système scolaire au Kenya et en Tanzanie. Est-ce que, rapidement, tu peux nous décrire la situation des langues africaines qui sont parlées là-bas?
Au Kenya, en fait, on a 43 langues, quand on ne compte pas le hindi qui est là sur le territoire, l'arabe et d'autres langues étrangères. Donc, 43 communautés. Et après, en Tanzanie, il y a 120 langues qui sont parlées. Mais encore une fois, en Tanzanie, tout le monde parle le swahili. Tu vas aller n'importe où, tu vas trouver quelqu'un qui parle le swahili. Or qu'au Kenya, tu peux aller dans les zones où les gens parlent extrêmement mal le swahili, même ne comprennent pas un mot en swahili. Par exemple, quand tu vas à l'ouest du Kenya, vers Ouganda, vers les frontières, c'est les communautés qui parlent leur propre langue et anglais. Mais après, quand tu essaies en swahili, c'est vraiment c'est une langue qui n'a pas beaucoup résonné avec eux. Voilà. L'anglais, je trouve, c'est une langue déjà pratique dans le monde d'aujourd'hui. Mais au Kenya, comment on apprend l'anglais, c'est pas une manière soft, c'est vraiment ils ont gardé les mêmes fils coloniales. En fait, il y a beaucoup de retombées négatives quand tu parles pas anglais. Même dans les pays, au Kenya, les gens s'auto-jugent. Ils oublient le fait que nous, on a d'autres langues et il n'y a pas droit à l'erreur. Donc, tu passes ton temps à être humilié à l'école avec les enseignants et tu vas aller chez toi et les personnes autour de toi, quand tu parles, ah ah ah, t'as mal prononcé ça, ah ah ah, tu parles pas bien anglais. Et donc, pour moi, c'était vraiment, je me dis, mais à quoi ça sert cette langue? Parce qu'on me force à les parler, mais je veux le parler avec qui chez moi? Et donc, j'ai passé mon temps à rejeter. Par exemple, quand j'ai terminé mes études au lycée, quand j'allais dans les bureaux pour déposer mon CV, pour faire des petits boulots, parce que j'ai commencé à travailler à 14 ans, je faisais mon CV en swahili, parce que je me suis dit, oh, dans la constitution, la langue officielle, c'est anglais-swahili. Et vraiment, là, l'ironie, tu vois quelqu'un de 40, 50 ans, qui parle anglais dans une manière bricolée, commence à se moquer d'en dire, mais t'es pas éduquée, ma petite, ou quoi? Mais pourquoi tu me donnes un document en swahili? Et moi, je le regardais dans les yeux, je lui disais, parce que c'est la langue nationale. Et moi, j'ai choisi de travailler avec le swahili. Et normalement, ça doit passer parce que c'est une langue nationale. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que les gens ne voyaient pas ça. C'est juste, ils disent comme ça, oui, c'est la langue officielle, mais ce n'est pas vraiment impliqué dans les manières de faire les documents et tout ça. Et voilà.
Quelle serait ta définition du swahili?
Le swahili, pour moi, c'est une langue de commerce, et une langue de lutte, résistance et une langue de survie. Je peux aussi dire que c'est une langue qui unifie. Et moi, je suis bien contente parce que c'est à nous, c'est une langue à nous qui a pris racine et qui nous fait survivre jusqu'à maintenant.
Ça, ce que tu viens de dire, c'est finalement pour la situation en Tanzanie, puisque au Kenya, bien que ça soit une langue officielle, c'est pas une langue commune, justement, le swahili par rapport à l'anglais. Donc, est-ce que tu peux nous dire quels sont les discours sur le swahili au Kenya et en Tanzanie? Donc, j'imagine deux choses assez différentes.
Donc, déjà, les préjugés au Kenya, ils disent que c'est une langue que les Arabes ont inventée. Et ça m'énerve. Parce que déjà, les Arabes, quand ils sont venus, oui, ils sont venus avec les commerces. Ils sont même colonisés. Moi, je dis que c'est une soft colonisation. Parce que, par exemple, quand je compare avec ce qu'ils ont fait en Afrique du Nord et comment ils sont rentrés en Afrique du Nord, ce n'est pas les mêmes façons. Ils sont venus en Afrique de l'Est. Donc, les populations ont tendance à voir, ah oui, c'est eux qui ont ramené les swahili. Or que non, pas du tout. Ça, c'est un préjugé qui m'énerve parce que c'est les gens qui ne veulent pas creuser dans l'histoire et voir d'où ça vient. Et parce qu'au Kenya, ils ont cette préjugé, ils disent, bah oui, c'est pas notre langue et tout ça. Sauf que nous, sur les côtes, là, bah oui, c'est notre langue en fait. C'est toujours les batailles depuis toujours. Un autre, c'est que le swahili, c'est une langue artificielle. Pendant un temps, j'ai pensé vraiment, je pense quand j'étais en secondaire, j'ai pensé que c'était vraiment une langue artificielle. Mais après, quand j'ai vu comment il a grandi et comme j'ai commencé à faire mes études de langue, j'ai commencé à croiser et finalement, j'étais là, en fait, c'est pas espéranto. En fait, il s'est basé sur une langue, sur le littoral, on dit, oui. Et voilà, il a grandi de là. Oui, en important des mots qui venaient des portugais, arabe, hindi, sanskrit, anglais aussi. Et voilà.
Oui, parce que ce que j'ai pu lire, c'est que le swahili, c'est bien une langue bantoue où il y a beaucoup d'apports. 35% du vocabulaire, par exemple, vient de la langue arabe. Mais on n'est pas sur un créole du tout. C'est bien une langue bantoue et c'est bien la langue d'un peuple qui était déjà à la côte et qui était intermédiaire avec les marchands persans, arabes, indiens, etc. quoi. Bah justement, est-ce que tu peux nous dire d'où vient ce mot swahili, nous donner l'étymologie?
En fait, je pense que c'est ça les problématiques. Parce que le mot swahili, étymologiquement, il vient de l'arabe, sawahel. En fait, c'est les passants de la côte. Donc oui, on a porté ces noms et voilà, ça a devenu le nôtre. On ne dit pas sawahel, on dit swahili. Ça vient vraiment de là.
Est-ce que tu peux nous donner d'autres mots d'origine arabe que tu connais, swahili?
Oui, par exemple, les classiques de tout le monde. Sucre, on dit sukari. Sekr en arabe. Aussi, il y a un mot comme, par exemple, on dit merci, shukrani. Et c'est shukran, vraiment de l'arabe. Il y a aussi, par exemple, comment on salue les gens le matin. En swahili, on dit sabal khair. Mais ça vient d'arabe aussi, c'est sabal khair. Mais ça, c'est parmi les 36 manières de saluer. Parce que nous, on a plusieurs façons de saluer. Il y a beaucoup de nuances quand tu salues des gens. Quand j'ai fait mon master de traduction, on a fait un peu les linguistiques comparatives et j'ai voyé vraiment quand je traduisais vers le swahili n'importe quelle langue, il y avait tellement de nuances en swahili sur les saluts et sur les distances et parfois j'arrivais pas à décrire bien ce que les personnes en fait disaient parce que pour nous c'est il y a des contextes. Par exemple, pour les salutations, ça dépend déjà de l'âge des personnes, si on les connaît, si c'est quelqu'un que tu aimes bien. Quand on salue généralement quelqu'un qu'on connaît pas, plus âgé et tu veux être respectueux. Déjà, tu dis « shikamo », ça veut dire quand tu reconnais son âge et sa maturité. Et donc, « shikamo », c'est genre « je te touche les pieds en reconnaissant ton âge ». Et les personnes répondent « marhaba », genre, ça veut dire « oui », sept fois plus. En fait, il accepte cette position que tu lui as donnée en disant « oui, tu peux toucher mes pieds sept fois plus parce que je suis plus âgé que toi, plus sage », tout ça. Après, il y a une autre, si tu ne veux pas dire shikamo, parce que parfois, maintenant, avec la globalisation et les égismes, les gens disent « Ah, si tu me dis shikamo, vraiment, tu es en train de me faire vieille ou vieux. » Et donc, tu peux juste dire « hujambo ». C'est vraiment un bonjour standard, génial pour tout le monde. Et si c'est pour les jeunes, tu vois quelqu'un, tu peux dire « mambo », ça vient de « hujambo », c'est juste une variante. On a aussi les variantes touristiques, on dit « jambo ». Nous, on ne dit jamais ça, c'est juste des touristes. Mais ça vient des Hujambo. Il y a aussi plus poussé, par exemple, quand je salue mes voisins, si c'est le matin, je dis Habari Asubuhi. C'est quoi les nouvelles ce matin? Et les passants vont te dire Mzuri, c'est bon, ça va. S'il y a quelque chose à te dire, il va commencer à t'expliquer Ah, oui, tu sais, j'ai un enfant malade et tout ça. Donc, c'est littéralement, tu prends des nouvelles. Donc, on a cette version les matins, l'après-midi, les soirs. Bon, pour mon mémoire, j'ai fait les traditions des femmes vie liberté, des Marie-Jean Satrapi, et je les traduis vers les swahili. Et donc, là, dans les livres, parfois, j'étais là, OK, moi, je ne peux pas juste dire bonjour quand il est écrit dans les livres. J'ai regardé les personnes qui s'est parlé parce que je me suis dit, s'il y a quelqu'un en swahilophone en train de lire, ils vont dire, ah oui, ça c'est quelqu'un qui est en train de saluer quelqu'un qui est plus âgé. Ou ça c'est deux voisins, ça c'est les personnes qui se connaissent, ça c'est, voilà. Il veut contextualiser ça. Il y a aussi, par rapport aux distances, on a trois façons à dire la distance, mais c'est relative à toi en tant que personne, comment tu vois cette distance. Donc, par exemple, quand quelqu'un te demande « ukoapi », t'es où ? Et tu dis « Niko nyumbani », tu peux dire Niko nyumbani, c'est je suis chez moi ou à la maison, ou Nipo nyumbani ou Nimo nyumbani. En fait, ces trois choses ne veulent pas dire les mêmes choses. C'est par rapport à comment toi tu te vois là dans l'espace. Donc, par exemple, quand tu dis Niko nyumbani, c'est de manière générale. Mais quand tu dis Nimo, c'est vraiment t'es chez toi, mais dans un endroit spécifique à l'intérieur de ta maison. Ça, c'est Nimo. Et après, Nipo, c'est aussi, ça peut être dans la maison, mais dans quel contexte? Est-ce que tu es, je ne sais pas, sur les varandas? C'est vraiment quelque chose que pour nous, ça ne nous pose pas de problème parce que quand on parle, moi, je ne veux pas dire qu'on dit ni mot. Je lui dis, ah, super. Et je vais arriver, je vais voir les personnes, il est dans les lits. C'est pour ça qu'il a dit ni mot, ni bani. Mais pour les personnes qui apprennent les Swahili, c'est un peu, j'ai commencé à voir comment ça pose problème. Ils ne voient pas les différences. Et même moi, je ne suis pas satisfaite à comment je l'explique parce que j'ai l'impression que je ne l'explique pas comment je les vois dans ma tête. Parce que moi, je sens les différences quand les personnes me disent ni ko, ni po, or ni mo. Voilà.
Est-ce que tu peux nous dire les sons qui existent en Swahili et pas en français?
Par exemple, oui, oui. Prends ça, c'est G et W. Donc, on dit oui. Même, par exemple, les J, quand on dit Jambo, par exemple, les gens, moi, je sens qu'ils ne les prononcent pas bien parce qu'ils les prononcent comme Django, les D, J. Et c'est pas ça, c'est vraiment un J. Et nous, on dit I, I. C'est un truc qu'on fait avec les palais en haut. Et les gens n'arrivent pas à le faire. Quand je dis Hujambo, ils disent, mais comment on fait ça? C'est pas un J pour nous. C'est un truc, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Il y a aussi un NG qui n'est pas prononcé comme le NG français. Par exemple, quand on dit nyanga nyanga, c'est un lutte. En fait, c'est un mot pour exagérer. Quand tu dis, ah, tu viens de Sokoni, et mambo elle quoi, nyanga nyanga, c'est on est allé au marché, on fait les sons pour parler d'émotions, sentiments, comment on s'est senti. Donc, nyanga nyanga, c'est juste pour expliquer les sentiments de comment l'ambiance était. Les mêmes NG, quand on dit vache, on dit ngombe, mais c'est un autre NG. Par exemple, jusqu'à là, je peux penser à ça. On fait beaucoup des onomatopées, les petits sons, les interjections sonores. Par exemple, wewe. Wewe, de manière standard, ça veut dire toi. Mais après, tu dis wé. Ça veut dire c'est un truc pour montrer t'es étonné. Ou wé, avec un truc, ça veut dire quelque chose menaçant. Ouais, ouais, c'est vraiment waouh. En fait, c'est en fonction de comment tu les chantes, ça va être interprété différemment. Mais j'ai l'impression en Swahili, on a cette truc des interactions. C'est comme un ballon. Si on est en train d'avoir une conversation, tu vas entendre eh hé, aïe, ouais, ouais, wacha. Quelqu'un est en train de parler des choses. Oh, en fait, on est parti. Quelqu'un va dire eh hé. C'est vraiment une manière d'encourager les personnes autour de toi de continuer à parler et que tu es investi dans l'histoire. Donc, tu vas faire beaucoup de sons. Et moi, honnêtement, parfois, quand je suis en train de raconter une histoire à mes amis en français, je me rends compte, en fait, qu'il manque ça. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup parce que, c'est les choses qui te font même marrer, même toi qui es en train de raconter l'histoire. Parfois, ça te fait marrer comment les personnes exclament, comment ils sont en train de dire des choses. Je dis, mais oui, OK, voilà.
Aujourd'hui, dans cette énorme zone swahilophone, est-ce qu'il y a une identité commune à travers la langue swahili?
Oui, il y a une identité commune. Et l'identité swahili, c'est une identité de mélange. Il y a des choses qui sont venues plus communes parce que, par exemple, les swahili, ils ont un tissu qui s'appelle les kanga en Tanzanie et leso au Kenya, mais c'est les deux mots swahili. Leso vient de lenso en portugais et c'est le tissu qui communique. En fait, c'est un tissu coloré avec les... Normalement, il y a des motifs. Et après, il y a des petites phrases, des mots, pour communiquer avec les amis, les personnes que tu aimes, les personnes avec qui tu es en train de faire les bagarres. C'est mis en forme des proverbes. Il y a tous les messages possibles. Par exemple, tu peux trouver un kanga qui écrit « Mdomo mkubwa chapati wa ikunjia nini ?» Ça veut dire « La bouche est grande. » Pourquoi tu es en train de plier un chapati pour le manger? Quand tu dis ça à ta voisine, parce que c'est quelqu'un qui parle beaucoup et qui t'énerve, tu les portes ou tu les donnes comme cadeau en disant « Ah, j'ai un cadeau pour toi ». Et quand les voisins, voisines voient les tissus, ils vont comprendre le message. Et s'ils veulent répondre, ils vont aller acheter les tissus avec une réponse, parce qu'il y a toujours des réponses que tu peux donner aux gens. Et donc, c'est devenu le symbole vestimentaire, par exemple. Et aussi, il y a les épices, les manières de cuisiner avec beaucoup d'épices qui est venu avec aussi les mélanges culturels. Et ça, c'était approprié et ça, c'est devenu quelque chose dans les cultures swahili. Il y a aussi la littérature et tout ça, et la poésie, les manières de faire la poésie. Par exemple, les poésies chantantes qui venaient de... Les Arabes les faisaient et donc ils ont mélangé l'orature des langues locales et après les techniques que les Arabes faisaient... On voit ce type de style de poésie en swahili qui est trop beau, d'ailleurs. Ouais.
Si tu as des enfants, Imane, oui. Quelle langue tu souhaites transmettre?
Les Swahili en première, parce que j'aimerais bien que ces enfants apprennent ces langues, parce que c'est une langue qui a une présence forte sur la région d'Afrique de l'Est et aussi sur la place dans les politiques panafricaines. Et moi, je trouve que c'est une fierté à nous. En fait, on dit en fait, il y a une langue africaine qui est là, qui est présente. Et en annexe, s'il y a toujours la possibilité, moi, je ne suis pas contre l'apprendre un peu de Kikamba et Kigiriama. De toute façon, je pense que je vais lui parler de ces langues comme ça. Ils vont se comprendre avec leur grand-mère, des choses comme ça. Pour moi, c'est hors de question qu'ils sont monolingues ou bilingues. Il faut qu'ils comprennent à peu près cette diversité linguistique qui existe chez leur maman. Voilà.
Est-ce que tu connais des mots français d'origine Swahili?
Oui, par exemple, il y a un mot qu'on utilise souvent, safari, je vais le dire comme ça du coup. En Swahili, safari, ça veut dire voyage. Mais c'était utilisé par des colons pour décrire des expéditions. Donc maintenant, il est dans les vocabulaires, je veux dire, touristiques. C'est parce que ça venait de cette personne qui faisait des expéditions dans ces contextes. Ils allaient voir les animaux, écrire, les catégoriser. Par exemple, les Livingstone et compagnie, là, qui ont fait ça. Mzungu, ça désigne un blanc. Mais aussi, c'est plus complexe comme ça. Au début, ça a commencé à désigner les blancs. Mais aujourd'hui, dans les Swahili modernes, contemporains, c'est l'étranger. C'est les personnes qui ne viennent pas de la terre. On peut dire Mzungu pour un Asiatique, de manière générale, ou quelqu'un qui vient d'Amérique latine, parce qu'on ne les comprend pas. Pour les Afro-Américains aussi, on dit « Ah, c'est un Mzungu noir ». Et ces mots, il est venu à l'époque quand les Européens, ils ont commencé à apparaître. Parce que vu qu'ils apparaissaient sur les côtes avec les bateaux, et après ils faisaient leur expédition, on les trouvait à l'ouest du pays. Donc on disait en fait, c'est les mêmes personnes qui vadrouillent un peu partout. À l'époque, les gens ne savaient pas que c'était les personnes différentes ou ils ne se rendaient pas compte. Ils disaient en fait, c'est les personnes qui vadrouillent. Donc on disait, ah, wazungu kadia, oh. Ni wazungu kadia. Et finalement, il était devenu un peu coupé, on disait wazungu. Mais vraiment, ça vient de Mzungukayi, quelqu'un qui vadrouille. Voilà, c'est un mot qui était né comme ça et qui était ajouté dans les vocabulaires Swahili pour désigner les Européennes.
T'en as dit un tout à l'heure quand tu nous as parlé des Lensu. Mais est-ce que tu peux nous citer un autre proverbe en Swahili et nous l'expliquer?
Il y a un proverbe que j'aime bien, le proverbe qui me réconforte quand la vie est difficile. Chamkufu mwanafu ha na ki hu. Ça veut dire mkufu, c'est mkufunzi. Mkufun, ça veut dire les maîtres, les profs. Et mwanafu, ça veut dire des mwanafunzi, l'étudiante, l'élève. Et donc, c'est comme si tu disais, ce que mangent les profs, l'élève ne peut pas manger ça, parce que si tu le manges, tu meurs. Si tu prends quelque chose qui n'est pas fait pour toi, ça va te dépasser. Et pour moi, je l'interprète comme un truc de destin. Et quand je dis réconfort, c'est quand il y a des choses difficiles dans la vie, tu es en train de dire, mais en fait, je n'arrive pas à accéder à cette poste. Je me dis, peut-être, je ne suis pas atteint le niveau des mkufu, donc je suis toujours manafou, donc je ne vais pas m'espider pour arriver dans un niveau qui n'est pas le mien. Je vais juste aller avec mes niveaux. Voilà. J'adore ça.
Si on doit aller à Dar es Salaam, donc plutôt en Tanzanie, si on a envie de parler Swahili, est-ce que tu peux nous donner comme ça 3-4 mots qu'il faut absolument connaître?
Asante, c'est merci, c'est la base. Il faut aussi connaître les mots Naomba. Naomba, c'est je vous prie. Et Tafadhali, je t'explique dans les contextes. Par exemple, quand tu vas acheter quelque chose en Tanzanie, souvent, il faut que tu dis bonjour. Je t'en supplie de me vendre du pain. S'il vous plaît. Hujambo, naomba unizimkate tafadhali. En fait, c'est une manière de parler aux gens, poliment. Et ça, c'est une particularité tanzanienne qui est, c'est une règle bien respectée. Naomba, il faut. Parce que même les polices, quand ils t'arrêtent, parce qu'on n'a pas un vous et un tu, mais donc c'est comme s'ils disaient, je te supplie de me laisser t'arrêter. Voilà. C'est vraiment un truc marrant. Les Kenyans, ils ne comprennent pas ça. Mais quand même, c'est les mots importants à connaître quand tu es en train de visiter Dar es Salaam, qui s'appelle Mzizima. Ça, c'est les mots avant l'arrivée d'arabe. Comme a dit, naitwa Iman Sidi Katanu, nina miaka 26, na mimi ni mpenzi wa lugha. Je m'appelle Imane, j'ai 26 ans et je suis une passionnée des langues.
Un grand merci à Imane pour son témoignage. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de « Ma langue maternelle n'est pas la langue de ma mère ». On se retrouve le mois prochain. Et d'ici là, comme on dit « Amzizima », « Tuonanetena ivikaribuni ».